vraiment qu'on règle ces appareils. Le son va arriver. Bonjour à tous. Nous allons commencer ou nous commençons une nouvelle année. Et je suppose que vous avez tous fait des vœux. C'est bien des vœux. On se souhaite des choses. On espère de bonnes choses. J'ai eu des mails à un moment donné, ma femme qui recevait sur son portable des mails à répétition disait « je suis débordé, il va me falloir 2 jours pour répondre ». C'est la période des vœux. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais commencer cette méditation de la parole de Dieu avec un verset du psaume 130. Le psaume 130 et le verset 5. Vous aurez peut-être des traductions un petit peu différentes, mais l'esprit est le même. Dans la version que j'ai, et celle que j'avais retenue dans ma préparation, j'ai une petite variante, mais le sens est identique. Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel. Et mon âme espère et j'attends sa promesse. Dans d'autres traductions, vous avez « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole », c'est-à-dire à l'accomplissement de sa parole et aux promesses qu'il me fait. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Faire des vœux, c'est espérer ou formuler quelque chose qu'on espère pour soi ou pour les autres. On est bien d'accord? Quand vous dites et vous envoyez vos vœux, vous êtes sincère en disant « voilà ce que j'espère pour toi ». Et en général, on espère du mieux, du bon. Alors je suppose que vous avez pris le temps d'envoyer des mots et dire « voilà ce que j'espère pour toi, voilà ce que je formule comme vœu ». Et j'attends, moi en tout cas, par rapport à Dieu, l'accomplissement de ce que j'espère. Dans le livre des Proverbes, il y a une autre phrase qui a attiré mon attention. Proverbe 10, je crois que c'est le verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Alors, il y a quelques semaines, Michel a entamé une réflexion sur l'attente du retour du Seigneur. Et il y a 3-4 semaines, peut-être au-delà, en l'écoutant, il y a un mot qui est resté dans mon oreille. Et puis il est allé un petit peu plus loin après, fort heureusement. C'est le mot « attente » ou « attendre ». J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Et puis quand il parlait du retour du Seigneur, je l'écoutais attentivement, et puis je me disais, mais en fait, est-ce que attendre, c'est une position qui est une position nécessaire pour le croyant? Et j'écoutais Michel, et quand j'ai relu le verset de Proverbe 10, il est dit que l'attente des justes n'est que joie. Et là, je vois déjà des têtes qui dodelinent en se disant « ouais, ouais, ouais ». Enfin, attendre, ce n'est pas forcément une joie. Alors, quand j'ai commencé à préparer ce message, je me suis dit « aïe, aïe, aïe ». Il y en a qui vont ressortir avec une foi exacerbée ou alors une souffrance exacerbée ou en tout cas une insatisfaction. C'est beau d'entendre quelqu'un qui parle de l'attente alors qu'il ne souffre pas des mêmes besoins ou des mêmes espérances que moi. Et pourtant, imaginez que vous ayez la même attente à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre prochain, pendant tous les jours qui vont venir, et que cette attente-là, vous l'entreteniez en se disant « Oh, j'ai hâte de savoir quel cadeau de Noël je vais avoir au 25 décembre 2021. » Je suppose que au fil de l'année, votre attente va devenir pénible à vivre. Imaginez que le 2 juillet 2021, vous soyez « Ah, qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir ?» Puis le 10 septembre 2021, « Ah, j'ai vraiment hâte !» Ce serait une attente faite de souffrance. Ne croyez-vous pas ? Ce serait une attente qui deviendrait stérile et qui vous pourrirait la vie au quotidien. Mais alors, quand la parole dit que l'attente des justes n'est que joie, que l'espérance doit et se veut comme demeurant en Christ, en Dieu, alors comment bien vivre les attentes qui sont les nôtres ? Parce que je pense fermement qu'il n'y a pas de foi sans attente. Il n'y a pas d'espérance sans attente. Je suis content des témoignages qui ont eu lieu là, juste avant ce temps de partage. On s'est réjoui en début de semaine de la réponse que Dieu a apportée à Omid. Et on a tous applaudi. Vous vous êtes réjouis pour lui. Vous vous êtes réjouis qu'il ait attendu 5 ans pour avoir le droit d'avoir un lieu où reposer sa tête, d'avoir un espace où vivre sa foi. Vous vous êtes réjouis véritablement de ce qu'il ait attendu pendant 5 ans ? Non, bien sûr que non. Vous vous êtes réjouis que Dieu ait répondu à son attente. Mais il a attendu 5 ans. Est-ce que je suis prêt, moi, dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, de dire, Seigneur, ce qui compte, c'est l'espérance que j'ai en toi. Son accomplissement, elle se trouve en toi. Les promesses que tu me fais se trouvent en toi. Alors, oui, je veux attendre. Parce que j'espère en l'Éternel. Ce n'est pas une espérance qui repose sur quelque chose de stérile, sans pouvoir, sans capacité de s'accomplir. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. J'attends que cette promesse devienne réalité. Merci Seigneur de ce que tu as accompli cette promesse pour notre frère. On a partagé lundi, on était invités en petit comité pour se réjouir de cet accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'Omid. Et il nous a redit son parcours. Comment le Seigneur a conduit sa famille d'Afghanistan, en Iran. Et puis comment le Seigneur a conduit sa famille, elle le plaçait sans le savoir dans une famille chrétienne pour faire son apprentissage et travailler. Et comment, à la suite de cela, il a été obligé de prendre la route à l'âge de 15 ans. C'est son témoignage. Parlez avec lui. Quand on entend cela, on se dit, mais moi, Seigneur, j'ai des espérances aussi, mais est-ce que je suis prêt à attendre ton temps, à attendre ta parole, que ta parole t'accomplisse? Est-ce que, véritablement, mon attente peut être uniquement basée sur la joie parce qu'elle repose sur toi et ma connaissance de ta fidélité et de ton amour pour moi? Je sais que tu as pour moi des plans de bonheur, des plans d'amour pour ma vie. On a partagé et j'écoutais, je me disais, j'ai eu des temps d'attente dans ma vie. Mais est-ce que j'ai eu des temps d'attente de cette nature-là, avec tant de souffrance et tant d'attente en Dieu ? J'ai entendu Sandra qui disait ce matin, je croyais qu'il ne m'entendait pas. Sandra, tu exprimes ce que nous pensons souvent sans oser le dire. On demande au Seigneur, et on a le sentiment qu'il ne nous entend pas, puisque ses promesses ne semblent pas s'accomplir au moment où nous le souhaitons, où nous le désirons. Merci Sandra. Merci. Parce que tu dis une vérité profonde. L'insatisfaction vient de ce que nous n'attendons pas le temps de Dieu, mais que nous voulons, dans notre temps à nous, que Dieu agisse. Oui, je sais, certains sont en train d'écouter ces paroles et se disent, c'est facile pour lui. Au regard de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de ce qu'il a, j'ai attendu 2 ans, 3 ans que ma bien-aimée ose enfin me dire oui quand je lui ai demandé de m'épouser. Je vous assure que c'était long, parfois. Et en même temps, j'ai cru dans le temps de Dieu. Et je n'ai pas été déçu. Oui, mais moi j'attends là, et j'attends de quelle manière, dans quelle situation, dans quel état d'âme et d'être. Notre conception de l'attente, frères et sœurs, c'est une conception, je pense, qui est à apprendre ou à réapprendre. C'est une attitude, une position dans l'espérance qui est à apprendre. Alors, notre conception de l'attente, elle est malheureusement, comme tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, marqué par l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde, c'est tout de suite et maintenant. Cette conception de vie, car il s'agit bien de cela, est en lien avec notre manière de consommer la vie, de lui donner du sens. Il y a quelques jours, je regardais un reportage sur la Namibie, sur ce qui est considéré par les scientifiques comme le plus vieux désert du monde. Il n'y a que du sable dont la structure est existence depuis des centaines de milliers d'années. C'est le désert, le plus vieux désert du monde. Et puis, dans ce désert qui se jette dans l'océan, il y avait une femme qui vivait dans une maison. On se demande, alors le voisin, je vous assure, on peut faire des rave parties sans déranger le voisinage, il est à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Et elle était là, et elle disait combien la qualité de sa vie était grande dans ce monde qui nous semblerait hostile. Imaginez à quelle distance se trouvait la première Fnac, le premier Décathlon, le premier hypermarché. Et elle disait, mais je vis dans un environnement tellement merveilleux. Puis moi j'écoutais, je dis oui, d'accord. Parce que ce qu'elle attendait de la vie n'est pas ce que nous attendons. Comment attendons-nous? Quelle qualité et espérance de vie souhaitons-nous? Et en qui et en quoi mettons-nous notre espérance? Qu'est-ce que nous souhaitons en ce début d'année? Quelle est notre attente? Les modèles de la Bible qui nous apprennent ce que l'attente doit occuper comme place saine dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, dans notre relation avec Dieu, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a ces 3 niveaux. L'attente pour moi. Qu'est-ce que j'attends pour moi? Est-ce que vous vous êtes posé la question en ce début d'année? Qu'est-ce que j'attends pour moi? Et qu'est-ce que j'attends et de quelle manière je l'attends? Et puis dans mes relations aux autres. Qu'est-ce que j'attends de la relation avec les autres? Avec mon épouse, avec mes enfants, mes collègues de travail, qu'est-ce que j'attends? Et dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui? C'est quoi ce que je souhaite? Dans le livre de la Genèse, Joseph a 2 visions qu'il partage avec sa famille. Vous savez, ces 2 fameuses visions au chapitre 37, où il voit des gerbes dans un champ, et puis une gerbe qui est au milieu, et toutes les autres gerbes s'inclinent devant cette gerbe-là, sous-entendu lui-même. Une prophétie, une image, une allégorie en tout cas, de ce qu'il serait au centre de sa famille. Et puis il a une autre vision où il voit la lune, le soleil, c'est-à-dire ses parents, et puis 11 autres étoiles qui s'inclinent devant lui. Et là, le père même s'interroge, non, mais en quoi peux-tu être au centre de notre monde? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on t'adore? Est-ce qu'on te mette une place de privilégié? Il dit, ben voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai reçu. Chapitre 37. Ensuite, Joseph est vendu par ses frères. Ensuite, il devient serviteur, esclave dans la maison d'un maître, Potiphar. Ensuite, il est mis en prison sous de fausses accusations. Ensuite, dans la prison, il rencontre des personnes, il témoigne de sa vie, de sa foi, de ce que les autres peuvent attendre aussi de la suite. Pendant des mois et des années, il a attendu. Elle était où la vision des gerbes et des étoiles? Elle était où? Vous prenez dans le livre de la Genèse, mais aussi Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, l'histoire de Moïse, fils de Pharaon, fils adoptif, qui doit attendre pendant des années et des années dans le désert que la pensée de Dieu pénètre en lui, le rencontre et qu'il puisse vivre quelque chose avec Dieu. Moi, je veux bien être Moïse, mais sans les années de désert. N'est-ce pas? On veut bien les promesses de Dieu. Je veux bien espérer en l'Éternel. Je veux bien que mon âme entière espère en lui. Je veux bien attendre ses promesses, mais sans que ce soit trop long. Quand je suis arrivé en Bretagne, il y a une quarantaine d'années, presque, on a vécu en communauté avec Rémi, Michel, Francine qui est arrivée. Catherine n'y était pas encore quand il m'est arrivé, quand j'ai vécu quelque chose. Je me rappelle, eux s'en rappellent probablement pas, mais moi je me rappelle d'un soir où on a mangé ensemble. On mangeait ensemble tous les soirs et on prenait un temps de prière aussi tous les jours. C'est une vie communautaire, on mettait nos biens ensemble, etc. Enfin, c'était une expérience. Après, on a le regard que l'on veut sur cette expérience, mais je me rappelle d'un repas. J'ai vécu pendant 4 ans dans cette vie communautaire, pratiquement 4 ou 5 ans, je pense. Mais je me rappelle d'un repas où j'étais dans la cuisine du château du Binz avec eux et où j'ai dit à eux et puis à un ami qui s'appelle Pierre-Yves, je dis, vous savez, moi, avec le Seigneur, je n'ai vécu que des réussites. Et je suis sûr que dans la foi, je vivrai que des choses qui relèveront de cela. Je me souviens avoir prononcé ces paroles. Et quand je suis remonté après dans notre chambre, dans notre petit appartement dans le château, j'ai pris conscience que ces paroles étaient des paroles de vanité, mais certainement pas des paroles basées sur l'espérance saine en Dieu. Tout va réussir. Dans ma vie, tout réussira. À la suite de cela, on a dû se séparer de la vie communautaire. J'ai été renvoyé de l'église. J'ai été sans église pendant 5 ans, je crois, à peu près. 5 ans. Tout seul, au milieu de l'Orient. Plus d'amis, plus personne. Pas de famille. Et ces propos que j'avais tenus un soir à table avec eux me sont revenus. Et ils ont été durs à assumer. Parce que je me suis rendu compte que, voilà, comment ça se fait que je suis là? Tout à coup, ça ne fonctionne plus. Elle est où la réussite? Elle est où la bénédiction? Et tes paroles, Sandra, elles sont dans les temps de Dieu pour nos vies, pas en nous. Ce n'est pas nous qui provoquons la bénédiction. C'est l'attente et l'espérance que nous avons dans un Dieu qui bénit. Je peux vous dire qu'on a serré les dents avec Francine pendant des mois et des années pour pouvoir voir la bénédiction et la grâce de Dieu. Mais ce n'était pas à cause de mes capacités ou ma volonté de réussite. C'était Dieu qui a pendant des années à travailler avec nous, travailler avec moi. L'attente, vous savez, l'attente, j'ai envie de dire, alors je vais me contredire et vous dire, mais il va où là? l'attente, ça ne sert à rien. Ah bon ? Bah, tu viens de dire. Non, l'attente n'est porteuse en elle-même de rien. C'est notre attitude dans les temps d'attente qui change tout, qui donne du sens. Vous savez, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, il leur dit, mais attendez, là, vous faites quoi ? En fait, les Thessaloniciens, ils étaient tellement convaincus du retour du Seigneur qu'ils s'étaient dit, bah, finalement, on laisse tomber tout le reste. Plus besoin de travailler, plus besoin de planter des champs ou de semer, etc. On attend le retour du Seigneur. Ça, c'est une attente dont Paul dira aux Thessaloniciens qu'elle est stérile. Parce que nous attendons, mais notre attitude consiste à, dans ce temps d'attente, de vivre et d'espérer que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous aussi dans le temps d'attente qui nous est donné. Alors bien sûr, je ne prononcerai pas ces paroles sans dire il y a parfois des temps d'attente qui sont douloureux. Il y a des temps d'attente qui sont difficiles. Pour les malades qui s'attendent à Dieu pour retrouver le bien-être et sortir de la maladie. Pour ceux qui ont des besoins essentiels et qui sont dans une attente pour recevoir et vivre, et non, sinon survivre. Alors ces attentes-là sont difficiles. Et je ne parle pas de ces temps-là, parce que ces attentes-là, il y a des besoins auxquels il faut répondre urgemment quand la vie est mise en cause. Je ne parle pas de ces temps-là, mais de ces attentes qui reposent sur d'autres choses que nos besoins vitaux. Il s'agit de ces temps où Dieu nous place en situation d'attente. Et vous savez, j'écoutais au mid lundi, et je me disais comment tenir dans le temps. Et que mettre dans ce temps pour que l'attente ne soit pas stérile ? Eh ben, il s'est mis en route. Il s'est levé. Il a fait un pas, deux pas, des milliers, des millions de pas. Il est allé là où le souffle de Dieu, quelque part, le conduisait, le poussait, jusqu'à ce jour où, lundi dernier, sur 39 personnes qui demandaient, qui avaient la même demande que lui, il y en a eu 4 seulement sur cette commission qui ont reçu un accord favorable. Et sur ces 39-là, il était le dernier sur la liste. On en souriait, on se disait, oh, j'ai lu en diagonale, vite, vite, j'avais mon code. 39e sur 39, où là, la réponse est favorable. Vous imaginez cela ? Parce que le temps de Dieu était venu. Parce que le temps de Dieu était venu pour lui. Nous l'avons porté, nous avons prié, mais dans ce temps d'attente, il a marché. Et pas seulement une marche physique, au travers des milliers de kilomètres, il a marché aussi intérieurement pour aller à la rencontre de son Dieu. Que faisons-nous de nos temps d'attente ? Je m'assois, et comme le dit le psaume, j'attends sa promesse. L'attente n'est pas une attente passive. J'espère en l'Éternel. Lorsque mon espérance en Dieu est légitime, spirituellement, doit-elle pour autant me laisser en souffrance et dans un temps vide de sens ? N'est-ce pas contraire à la réalité d'un Dieu d'amour pour moi ? Est-ce que je dois être dans un temps stérile ? Uniquement constitué de souffrance. Tu attends et ton Dieu te dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance ! On voit bien que la conception de l'attente dans la parole de Dieu, dans la relation avec Dieu, c'est une espérance qui s'inscrit dans l'avenir, dans le sens profond que Dieu veut donner à nos existences. Et c'est du maintenant. J'attends maintenant que ton espérance s'accomplisse, Seigneur. Mais j'attends avec joie et dans la confiance. S'il n'y a pas d'attente, alors il n'y a pas besoin de foi. Je vous le dis. Si ce que nous attendons de Dieu devait, je te demande Seigneur, et j'ai, je te demande Seigneur, et j'obtiens, je te demande Seigneur, et cela est là, alors à quoi sert la foi? En quoi la foi va étayer ma relation avec Dieu, va instaurer une relation de paix, de joie, d'assurance, parce que je sais que les choses légitimes spirituellement pour moi et dans ma vie s'accompliront. Ah, l'attente des justes n'est que joie. Je sais, c'est pas facile de l'entendre. Et c'est pourtant ce qui nous est demandé dans notre quotidien, dans toutes les dimensions de notre vie. Vous connaissez la parole de la parabole de, des serviteurs et des talents dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Vous en avez un qui a 5 talents, un autre qui en a 2, un autre qui en a seul, un seul. Une fois, j'avais fait le calcul de un seul talent. On se dit oui, mais alors lui, il n'a pas de chance. Et les autres, on en a eu 5, l'autre, on en a eu 2, et lui, on en a eu 4. Évidemment qu'il avait peur. Et je me suis rendu compte que. Du temps de Jésus, un seul talent, c'était la somme d'un salaire pour un ouvrier pendant une année. C'est ça qu'il a reçu. C'est pas un pourboire. Il a reçu un talent, le salaire d'un ouvrier pendant un an. Et le maître est parti. Et le maître est parti. Et leur a laissé ce qu'il leur a confié. Puis quand il revient, il demande des comptes. Là, on revient aussi dans le message de Michel ces derniers temps. Est-ce qu'on attend le retour du Seigneur? Je pense que nous pouvons avoir quelques craintes parfois. En tout cas, moi j'en ai. Je me dis, mais est-ce que j'aurai accompli ce que j'ai à accomplir dans ma vie par rapport à ce que Dieu m'a confié quand il viendra me demander des comptes? C'est une réalité, je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'ai toujours le sentiment que, lorsque je devrais rendre des comptes, je n'aurais pas forcément... J'en suis convaincu. Et j'en suis convaincu dans le fait que je suis passé à côté de certaines choses dans ma vie que je n'ai pas travaillé suffisamment. Je ne sais pas pour vous, vous avez peut-être le sentiment, mais que tout est fait, tout est bien fait. Mais je pense que quand le Seigneur me demandera des comptes, je dirais, oui, il y a une partie que j'ai fait fructifier. C'est vrai, Seigneur, je pense que j'ai essayé d'être fidèle. Puis il y a des parties de ma vie où je dis, mais Seigneur, là, je n'ai pas fait grandir ce que tu m'as donné. Quand le Seigneur reviendra, il nous demandera des comptes sur ce qu'il nous a donné. Mon espérance est là, c'est qu'il revienne bientôt. Mais quand il reviendra, qu'est-ce que je lui dirai? Très tôt, après notre mariage avec Francine, on a commencé à penser à nos obsèques. Dieu, en tant que jeune couple, ils ont des esprits morbides. Mais on écoutait des musiques, on se disait, tiens, celle-là, moi je la veux dans la célébration quand je partirai. Puis je me disais, mais qu'est-ce que j'écrirais sur une pierre tombale, sur une plaque, c'est le jour où je ne serai plus là. Je ne me fais pas d'illusions au bout de 20, 30, 40 ans, enfin même pas. 20, 30 ans, je serais oublié comme la plupart des hommes. Mais qu'est-ce que je laisserais comme mot? Et il y avait une phrase d'une poétesse que j'aime bien et qui est toute simple, qui est « Avoir été peut-être utile ». J'espère avoir été peut-être utile. C'est vraiment quelque chose qui est là à l'intérieur de moi. Et en même temps, en le disant, je dis « Mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment été utile ?» à ce qui est éternel. Et là, dans la parabole des serviteurs et des talents, il y a celui qui a peur et qui cache toute cette fortune qui lui a été remise au fond du jardin, en disant, je sais que tu es un maître redoutable, plein de rigueur. Ouais. Tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Eh bien, Seigneur, j'ai caché ce que j'ai. Est-ce que notre espérance est une espérance et une attente où nous laissons en stand-by ce qui est en nous, ce qui nous a été confié? La fin de la parabole, je pense, est mal comprise dans le sens où il est dit dans cette parabole, retirez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, on l'en donnera, il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, il lui sera retiré. Et puis il lui dit, quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Je pense qu'on est là dans une parole qui est dure et qui paraît être, définitivement déterminé pour ce serviteur. En fait, le dehors, c'est renvoyé dans le monde. C'est-à-dire là où il n'y a plus de relation avec ce maître que je suis. Mais rien n'est déterminé. Ça veut dire que ce serviteur, comme tous ceux qui le veulent, peuvent revenir à Dieu, rentrer à nouveau dans la joie du maître. Il y a d'autres passages qui éclairent celui-ci en disant il n'y a rien de sauf au moment où on quitte ce monde et on n'a pas fait le choix de rentrer à nouveau dans la présence et la volonté de Dieu. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'une attente active ? C'est quoi une attente ? Attendre de manière active. En fonction de notre espérance et de notre attente, il faut être prudent, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être actif. En fait, notre attente, c'est de se dire que ce temps-là, même si les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées, elles doivent m'inciter à vivre et à porter du fruit maintenant, dans tous les autres domaines de ma vie. Même si quelque chose, un domaine, n'a pas reçu la réponse de Dieu. Vous savez, les arbres en hiver, ils ont tous perdu leurs feuilles et ils attendent le printemps. Mais ils sont morts. Tous les arbres sont morts, hormis les sapins. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, ils sont vivants. Ils attendent le printemps. Ils attendent pour porter du fruit. Mais en ce moment, ils sont en train de reconstituer des forces. Ils sont en train de se fortifier, les arbres, vous savez, en ce moment. Ils n'ont plus leurs feuilles, ils n'ont plus la beauté que l'on voit au printemps et en été, mais ils sont en train de préparer les fruits qu'ils auront apportés. Il n'y a pas de période plus importante que l'hiver. Et on s'en rend compte en ce moment avec le décalage lié au réchauffement climatique, les arbres qui ont du mal à rentrer dans ce temps d'attente où ils se reconstituent. Et certains vont fleurir dans une période qui n'est pas appropriée et mourir véritablement. Le temps de l'hiver, le temps de l'attente n'est pas un temps stérile, ça peut être un temps là aussi où Dieu prépare, reconstruit en nous, guérit, nous rend capables d'eux. Il y a quelques années, je disais à quelqu'un de célibataire, ce serait bien que tu te prépares au mariage. Je dis, attends, la réponse a été, j'ai personne. C'est raison de plus. Ce temps d'attente est certainement aussi un merveilleux moment de se préparer à. Je sais qu'il y a des célibataires au milieu de nous et que leur attente est là. Mais est-ce que ça peut être aussi un temps d'attente qui est nourri dans ma relation avec Dieu pour me préparer à? Je ne sais pas. Peut-être que je peux, dans d'autres domaines aussi, me préparer aux promesses de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'être dans un activisme forcené dans l'attente, en se disant, il faut que je fasse, il faut que je bouge, il faut que je réalise. Non, c'est de prendre le temps de vivre les choses avec Dieu. Vous avez la parabole des 10 vierges. Pour les Juifs, la parabole des 10 vierges est comparée, c'est l'idée du royaume de Dieu, et c'est lié à l'idée de festin. C'est-à-dire que dans les pratiques de noces juives, lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille, il y a 2 coutumes. D'abord, le festin a lieu dans la maison de l'époux, pas chez la jeune fille. On voit ça dans les noces de Cana. Et ensuite, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique, des chants pour la ramener chez lui dans la salle des noces. Vous imaginez, c'est comme image par rapport au retour du Seigneur. On est bien là-dessus. le Seigneur va revenir, il va prendre son Église et puis va l'emmener pour le festin des noces de l'agneau. Alors, le temps de jugement sur ce que j'ai été, ce que j'ai fait, bon, je ne suis pas très fan, je sais qu'il faudra y passer. Mais le festin des noces de l'agneau, j'avoue bien que c'est un domaine que j'attends dans son accomplissement. Mais vous me dites, les deux jeunes filles qui sont dans ce qui constitue les deux groupes des vierges dites folles et sages, en fait, elles sont allées en chemin, elles ont fait un bout de chemin en attendant l'arrivée de l'époux, et puis il y en a qui apportent leur lampe pour être admises dans le cortège un peu illuminé, et puis avec ces lampes qui ont un petit réservoir avec un bec ou dans lequel on met une mèche, il y en a cinq d'entre elles qui sont insouciantes, la tête en l'air, et qui ne prévoient pas la suite, donc elles n'ont pas amené de réserve d'huile, et puis vous en avez cinq autres qui réfléchissent qu'il pourrait y avoir une attente, il peut y avoir une attente, et donc qui prennent des réserves d'huile. Et puis vous avez l'époux qui tarde et tous s'endorment. C'est étrange. Une parabole où l'attente, dans l'attente, on s'endort. C'est pourtant quelque chose qui, dans la relation de Christ avec ses disciples, leur est reproché quand ils attendent au jardin de Gethsémané. Il dit « Attendez, priez », puis quand il revient à deux reprises, il les trouve endormis. Là, ici, les vierges dites sages, elles s'endorment. Oui, mais, elles ont de la réserve. C'est-à-dire que quelque part, la réserve d'huile qui est là, c'est l'amour qu'elles ont pour cet époux, et que l'époux a pour elle. Là, les lampes sont prêtes. Il y a une réserve d'huile. Les folles doivent aller en acheter. Les vierges sages sont admises dans le cortège, et les folles manquent ce temps de fête. Elles frappent à la porte qui est fermée. Il n'y a plus aucune raison pour qu'on leur ouvre. On ne les connaît pas, car elles n'ont pas participé au cortège. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est vrai pour le retour du Seigneur, mais j'ai envie de dire, veillez aussi aux promesses que Dieu vous a faites afin qu'elles s'accomplissent et que vous soyez là au moment de Dieu, au temps de Dieu. Quelles sont vos attentes légitimes ? Parce qu'elles reposent sur les promesses et les pensées de Dieu pour vos vies. Alors si elles sont légitimes, prenez ce temps d'attente comme un temps rempli de l'Esprit Saint, rempli de la présence de Dieu, rempli de l'amour pour celui qui vous a promis ces choses. Je veux t'attendre, Seigneur. Dans Amos, il y a ce verset très court, chapitre 4, verset 12, qui dit simplement « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». J'ai envie de dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu dans ta vie » et aux promesses qu'il t'a faites et qui s'accompliront. Parce que, comme on l'a dit au début, l'attente des justes n'est que joie, parce que j'attends ses promesses, j'attends ses paroles. En clair, j'attends que s'accomplisse ce qu'il m'a dit. Je ne connais pas le jour et l'heure, ni de son retour, ni de certaines choses dans ma vie. Mais c'est bien, vous savez, de ne pas connaître le jour et l'heure. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, j'étais dans une douleur, on chiffre les douleurs de 0 à 10. Ouais, j'étais entre 9 et 9,5. Je suis arrivé, je crois que c'était un lundi, à 17h. On ne m'a pas dit à quelle heure je serais opéré ou j'aurais mon intervention, et surtout on ne m'a pas dit quand est-ce qu'arrêtait la douleur. Heureusement qu'on ne me l'a pas dit. Ça a duré 23 heures. Heureusement qu'on ne me l'a pas dit. Si au début on m'avait dit, bon, vous inquiétez pas, dans 23 heures on va régler ça. Et t'as fini fou. Ouais. Si on avait dit à Omid qu'il quittait, selon la pensée de Dieu, l'endroit où il était, pour vivre la sécurité et les promesses de Dieu pour lui, si on avait dit « T'inquiète pas, ça va durer 5 ans. » Chaque pas qu'il a fait, il n'aurait pas pu le faire dans l'espérance. L'espérance que Dieu changerait les choses, accomplirait des miracles. Parce que je crois que c'était un miracle. Mais si on lui dit, tu sais, ça va durer 5 ans, t'inquiète pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas ce que sont les temps de Dieu pour toi et pour moi. mais mon espérance est en Dieu. Je terminerai par la citation d'une pièce de théâtre d'un auteur qui est assez particulier, Samuel Beckett, un des plus grands auteurs de théâtre du XXe siècle. Il a écrit une pièce qui s'appelle « En attendant Godot ». Et vous avez deux héros, l'un s'appelle Vladimir, l'autre s'appelle Estragon, original. Et puis, ils attendent un certain Godot qui leur a donné rendez-vous. Et puis, ils attendent toute la durée de la pièce et Godot n'arrive pas. À tel point que, à la fin de la pièce, ils disent « Mais puisqu'il ne vient pas, autant se suicider. » Et puis, ils finissent en discutant, se dire, ils apprennent que Godot viendra demain. Alors, ils disent, on n'a qu'à partir, puis demain, on revient avec les cordes. Et si Godot ne vient pas ? Certains ont interprété cette pièce en disant que Godot, c'était God, Dieu en anglais, et que c'était l'attente de Dieu. La vacuité de l'existence et de l'attente de Dieu. À quoi ça sert de l'attendre ? Est-ce qu'il va venir ? C'est étonnant comme pièce de théâtre si on la lit sous cet angle-là. Et puis eux, comme ils sont sans espérance, ils attendent, mais finalement, ils ne font rien d'autre. Puis si Dieu ne vient pas, on se pend. C'est un petit peu l'esprit qui règne dans ce monde. Le monde attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qui va nourrir sa vie, sa foi. Alors il attend, et puisqu'il attend, on n'arrive jamais à combler et le cœur et la vie. Dieu nous invite, dans cette année qui commence, à être dans l'attente de son espérance, à être dans l'attente de ses promesses, et de savoir que, contrairement au regard de Samuel Beckett, notre espérance n'est pas vaine. Ce que Michel nous a enseigné pendant ces dernières semaines s'accomplira. Dieu, Christ, revient. Il va venir. Il n'y a rien de plus certain dans ma foi que le retour de Christ. Mais en même temps, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie et dans la vôtre est aussi certaine que le retour de Christ. Alors, que vais-je faire de ce temps qui est devant moi, de ces 52 semaines, de ces 365 jours ? Je n'ai pas calculé les heures, les minutes et les secondes. Mais que ferons-nous de ce temps d'attente avant que le Seigneur ne revienne et avant que s'accomplissent les promesses de Dieu pour notre vie ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment j'attendrai ? Alors, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends l'accomplissement de ses promesses. Psaume 130, verset 5. Et dans les Proverbes, l'attente des justes n'est que joie. Seigneur, nous ne désirons pas que ces temps qui sont devant nous soient des temps stériles. Nous ne désirons pas que ces temps qui sont devant nous soient uniquement occupés par notre souffrance, par notre attente, par la réponse comme cela, uniquement de l'accomplissement des choses. Mais nous voulons que ces temps que tu nous donnes, dans l'espérance que nous avons, parce que tu es un Dieu plein d'amour pour chacun de ses enfants, nous désirons, Seigneur, que ces temps-là soient remplis de toi, mais soient aussi remplis de nous, de ce que nous avons à vivre, à faire grandir, afin que, comme l'hiver peut arrêter toute chose dans la nature, eh bien que le soleil de ta justice vienne réchauffer nos vies, faire pousser des fleurs, des fruits. Mon espérance est en toi, Seigneur, et je m'attends à toi. Amen.